Histoire de la côte.
Bienvenue à Histoire de la côte. Mon nom est Alain Roy et je suis directeur artistique au Théâtre populaire d'Acadie, une compagnie de théâtre qui a pignon sur rue à Caraquet, dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Tout jeune, j'ai été fasciné en lisant les histoires de M. Antonin Friolet dans le livre « Caraquet, village au soleil ». Contes, légendes, récits de toutes sortes font partie de notre imaginaire et de notre patrimoine. Mais voici des histoires qui, bien que romancées par M. Friolet, reposent toutes sur des faits historiques. Elles se sont déroulées le long de nos côtes. Je vous invite à les découvrir par la voix de nos comédiens et comédiennes, agrémenté de captivantes mises en contexte par nos historiens et, à la fin de chaque histoire, des invités spéciaux qui viennent enrichir ces récits incroyables, bien que réels. Bonne écoute!
Épisode 4. Toukita et Cyranus. Les archéologues prétendent qu'il n'a jamais existé plus de 180 000 habitants des Premières Nations depuis le Saint-Laurent jusqu'au Mississippi, ce qui semblerait indiquer que la population autochtone était autrefois extrêmement clairsemée au Canada. Les provinces maritimes et la Gaspésie, où la vie humaine existe depuis plus de 10 000 ans, n'ont jamais compté plus de 4 000 Mi'kmaq. Étant donné que tout ce territoire compte de nos jours près de 2 millions de personnes et qu'il reste encore énormément d'espace à combler, il faut supposer que le nombre de Mi'kmaq de l'époque vivant dans ces régions ne pouvait représenter que des regroupements peu nombreux. Dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, ce n'est qu'à Nipisiguit à l'ouest, à Tracadie et Red Bank sur la Miramichi, que l'on a découvert des traces d'occupation autochtone. À Caraquet, vers 1820, on a trouvé au ruisseau Isabelle un cimetière d'où l'on exhuma les ossements de quelques Mi'kmaq enveloppés d'écorces de bouleau et d'un Européen de quelques distinctions en raison d'un crucifix en or qu'on y a trouvé. Selon la légende, les défunts étaient enterrés avec les objets qui leur permettaient de faire le voyage au pays de leurs ancêtres. Puisque cette tombe était dépourvue de ses articles, on pourrait supposer qu'il n'était que de passage et faisait partie d'une expédition d'Européens.
Comme on l'entend si souvent de nos jours, la péninsule acadienne est située sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq.
Bernard Thériault, historien.
Ce territoire Mi'kmaq, qui s'étend historiquement de la baie de Gaspé à la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, y comprend également l'île du Prince-Édouard, les îles de la Madeleine et l'île du Cap-Breton. Leur présence sur la côte est du Canada date de plusieurs milliers d'années et sont encore de nos jours surnommés les Autochtones de la mer, en raison du fait qu'ils sont sur la côte est du pays, le seul peuple à vivre en grande partie des ressources de la mer. Pour ces raisons, les Mi'kmaq ont gardé la réputation de construire les meilleurs canaux d'écorce de toutes les peuplades amérindiennes de l'est du continent. Peuple semi-nomade, on constate qu'ils se regroupent en hiver à l'intérieur des terres, où la chasse du gros gibier leur permettra de subsister jusqu'au printemps. Dès la fonte des neiges, les membres de la communauté se divisent en noyaux familial, plus petits, et s'installeront le long des côtes pour y puiser sur une base quotidienne ce que la mer peut leur offrir. Anguilles, huîtres, saumons, canards, outardes, etc. Comme toutes les populations amérindiennes des continents nord et sud de l'Amérique, les populations autochtones furent décimées par le contact avec les Européens qui amènent avec eux nombre de virus et des maladies contre lesquelles les peuples locaux ne peuvent rien. Chez les Mi'kmaq du Canada, on estime que leur population pré-contact a pu dépasser les 5000 âmes. Ce nombre, après la conquête, dépasse rarement 2000 personnes au cours du 19e siècle. Dans la péninsule acadienne, c'est quelques centaines d'Autochtones qui habitent le territoire quand les Européens s'y installent pour la première fois vers 1620.
Le littoral nord de Caraquet est exposé au vent glacial du golfe Saint-Laurent. Les habitants des Premières Nations y venaient l'été faire la pêche et retournaient dans le fond des bois pour y passer l'hiver et faire la chasse, surtout dans la région de Pouc-Mouche qui englobait les étendues d'Inkerman et de Saint-Simon pour déboucher dans le goulet de Sheepogan. Bien que l'on puisse détecter certains traits caractéristiques des Premières Nations dans quelques visages blancs, surtout chez les personnes natives du sud de Morais-Office ou de Saint-Simon, c'était plutôt à l'intérieur, comme à Pouc-Mouche, Tracadie et Taboussintak, qu'étaient situés les regroupements importants. Toutefois, la présence autochtone s'est vite éteinte dans le nord-est comme dans le reste de la province, où les Mi'kmaq se sont vus réduits à vivre dans quatre réserves instaurées par le gouvernement fédéral. Le Mi'kmaq était de nature paisible et manifestait pour les Acadiens une loyauté indéfectible qui les a bien servis dans leur rapport avec les Anglais, surtout à l'époque de la déportation. La femme était douce et tendre et témoignait beaucoup de sentiments pour l'enfant, quelle que soit son origine. Elle allaitait son propre enfant pendant plusieurs années, ce qui nuisait à sa fécondité parce qu'elle ne pouvait partager sa couche avec son mari. Donc, sa famille n'était jamais nombreuse. Il convient quand même de rendre hommage à ces femmes qui sont venues mêler leur destinée à quelques Acadiens au début de leur histoire. Il faut comprendre que dans cette culture, la femme apportait avec elle ce qu'il y avait de plus noble dans le tempérament humain. Voilà les qualités de cœur et d'esprit que la femme Mi'kmaq avait héritées de sa culture et qu'elle pouvait transmettre à l'homme blanc qui l'épousait. C'est sur la rive nord de la baie de Saint-Simon que l'on pourrait dresser un monument symbolique à cette culture noble et pure à cause du sacrifice de Tuquita, jolie fleur que la mort avait cueillie avant qu'elle puisse ouvrir ses pétales au jeune cœur d'un brave garçon qu'elle aimait en silence. Tuquita venait du peuple Mi'kmaq installé sur la rive nord de la baie de Saint-Simon. Cette jeune fille avait l'habitude de s'aventurer en canot loin des siens, vers l'est en direction de Morais-Office, où elle s'amusait à ramasser des coquillages et des pierres polies par le flux et reflux de la mer.
L'histoire romancée qui fait l'objet de ce travail s'inscrit toutefois dans une réalité historique qui, pour l'essentiel, est respectée par l'auteur. D'abord, il existait bel et bien une communauté autochtone qui occupait l'ensemble du territoire de la péninsule acadienne. Des fouilles archéologiques effectuées au siècle dernier confirment une présence amérindienne, plus particulièrement sur les rives des rivières Tracadie et Pouc-Mouche, où, de toute évidence, des campements d'hiver furent identifiés. Les fouilles ont permis de démontrer que certaines de ces activités auraient pu prendre place à une période aussi lointaine que plus de 2000 ans passés. Sur les côtes de la région, que ce soit à Bas-Caraquet, Lamèque, Sheepogan et ailleurs, on a aussi trouvé des preuves d'activités de subsistance, spécialement aux embouchures des rivières. Dans le contexte de cette société semi-nomade, il fut démontré par les historiens et les archéologues que la communauté Mi'kmaq de la péninsule étendait ses activités sur tout le territoire en se déplaçant dépendamment des saisons. Mais de façon générale, c'est la région de Pouc-Mouche qui représentait le centre géographique de la vie autochtone de la péninsule. L'abondance de truites, de saumons et d'anguilles dans cette rivière, ainsi que la présence importante de gros gibiers sur le territoire, font de Pouc-Mouche le lieu de campement d'hiver idéal du peuple Mi'kmaq dans la région. Le 25 juin 1761, le chef de la Première Nation de Pouc-Mouche, Étienne Hitchcock, signe avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui inclut le Nouveau-Brunswick actuel, un traité d'amitié entre les deux peuples. Si ce traité garantit une coexistence pacifique entre les conquérants anglais et les premiers habitants, il marquera le début de la fin pour la longue période de coexistence pacifique entre Mi'kmaq et Français.
Un jour d'été 1809, un jeune homme s'était détaché du groupe de ses camarades de Moray Office qui se baignaient dans les eaux chaudes du havre de Sheepagan. Il était allé épier secrètement cette belle jeune fille qui, absorbée dans son jeu d'enfant, chantait comme une mésange qui voltige de fleur en fleur. L'instinct de se sentir épié la fit s'envoler comme un oiseau qui va se poser sur une branche plus loin. La jeune demoiselle, en fuite, se retourna, esquissa son plus beau sourire et disparut dans la forêt. Le pauvre Cyranus ressentit instantanément le délicieux effet de cette vision évanescente. Il retourna pendant plusieurs jours au même endroit dans l'espoir de la revoir. Il ne vit pas Tuquita, mais celle-ci le surveillait de loin, inaperçue. Ses copains ne pouvaient comprendre l'emprise de cette jeune fille sur leur jeune ami et ils le taquinaient si impitoyablement qu'il se battait souvent pour défendre ses sentiments envers Tuquita. Cyranus revit Tuquita quelques jours plus tard. Il s'approcha d'elle et, sans lui parler, échangea une médaille sainte contre un collier de coquillages. Leur amour grandissait de jour en jour, mais la timidité inhérente à leur jeunesse, ils avaient à peine 12 ans, les empêchait de se dévoiler leurs sentiments. Ils ne se parlaient que des yeux lorsqu'ils lui caressaient ses longues tresses de cheveux foncés ou lui touchaient la main. Chaque fois qu'ils se promenaient en bateau sur la baie, ils levaient une rame pour la saluer et elle, du rivage, lui répondait de ses deux bras levés bien haut. Tuquita ne revit pas Cyranus pendant quelques jours et elle était en proie au plus grand chagrin. Un après-midi, elle vit deux jeunes qui s'avançaient vers elle le long du rivage et elle crut un instant qu'ils avaient quelque chose à lui dire de la part de Cyranus. Mais les petits gars sautèrent sur elle et l'accablèrent de gifles en lui disant qu'elle ferait mieux de s'éloigner de leur ami qui ne devrait pas s'occuper d'une maudite sauvagesse. Tuquita réussit tant bien que mal à s'échapper et à s'enfuir dans le bois. Les deux malfaisants lui crièrent qu'ils viendraient plus tard la chasser de cet endroit. Le lendemain, Tuquita était à l'orée du bois à son endroit habituel, semblant bien se ficher des gamins qui l'avaient menacée. Les apercevant, elle se mit à rire de bon cœur et leur tourna le dos en signe de provocation. Les gamins se lancèrent aussitôt à sa poursuite, mais malheur, ils tombèrent dans une fosse qu'elle avait astucieusement recouverte de broussailles. Tuquita s'approcha d'eux sans rien dire, leur donna son plus beau sourire taquin et s'en alla. Cyranus, lui, n'avait pas oublié Tuquita. Mais ses parents l'avaient quelques jours de suite envoyé faire des courses au village, ce qui l'empêchait de venir s'amuser sur le bord du rivage comme il en avait l'habitude. Cet après-midi-là, il avait suivi ses compagnons parce qu'il soupçonnait chez eux une certaine hostilité envers sa jeune compagne. Les trouvant là dans la fosse, il ne put résister à la tentation de les cingler avec une branche sèche en leur reprochant de vouloir s'en prendre à la jeune fille plutôt qu'à lui, ce qui les fit partir chez eux en pleurant. Tuquita de sa cachette avait tout vu, et elle éprouva une grande joie en constatant que Cyranus avait fait preuve de son affection en prenant son parti. Quelques jours plus tard, les deux jeunes garçons aperçurent Tuquita cueillant des bleuets et des framboises, toujours au même endroit, ce qui lui permettait de voir la baie et aussi Cyranus lorsqu'il se promenait en bateau. La jeune fille semblait ne pas se douter de l'approche des deux garçons. Ceux-ci étaient loin d'oublier le piège de la fosse qu'elle leur avait tendue. Ils voulaient lui rendre sa monnaie, mais à distance cette fois-ci. Ils s'approchèrent sans bruit de la clairière où se trouvait Tuquita et ils étaient prêts à lui lancer des cailloux avec leurs frondes lorsqu'ils entendirent un bruit derrière eux. quelle ne fut pas leur frayeur de voir un homme imposant qui les fixait d'un œil perçant, droit comme une statue, les bras croisés. Le père de Tukita. La réaction des garçonnets fut spontanée et électrique. Ils déguerpirent en un clin d'œil et on ne les vit plus là où Tukita avait coutume de s'amuser. Et Tukita s'attristait de plus en plus. Cyrenus ne venait plus à ses muettes invitations, celles qui se transmettaient par la concentration de la pensée, la télépathie, tellement elle le désirait. Des jours passèrent sans qu'il vienne. Elle ne pouvait savoir qu'il était occupé à certains travaux chez lui. À ses yeux, il était devenu aussi inaccessible et évasif que le feu follet que tout le monde pouvait voir, mais que personne ne pouvait toucher. Son intuition, son fort intérieur, ne cessait de lui rappeler que son amour pour ce jeune garçon aurait une fin tragique.
Pour se déplacer entre Pouc-Mouche, lieu principal de résidence des Mi'kmaq de la péninsule acadienne et la baie des Chaleurs, les premiers résidents du territoire descendaient la rivière Pouc-Mouche jusqu'à la rivière Wow, d'où ils empruntaient un portage les menant à la rivière Brideau et ensuite la baie de Saint-Simon. En longeant la rive nord de cette baie jusqu'au petit passage de Pouc-Choudi, on suivait la côte de Moréoffice, lieu choisi par l'auteur pour nous raconter sa légende. De plus, un rapport faisant état de la visite du commissaire aux Indiens pour la province du Nouveau-Brunswick, Moses Purley, en août 1842, rapporte qu'en revenant de visiter la communauté autochtone de Pouc-Mouche en canot, où habitent 75 autochtones, il fait la rencontre, sur la côte de Moréoffice, d'un Mi'kmaq du nom de Pierre Pominville, qui a défriché 10 acres de terre dont il ne possède pas les titres. Ce rapport peut, dans une certaine mesure, justifier la légende, si mentionnée, puisqu'elle confirme la coexistence d'Acadiens et de Mi'kmaq dans cette région.
Un après-midi d'été en juillet, rendue à son endroit habituel, elle écoutait le bruissement de la brise dans les arbres et elle eut le pressentiment qu'un terrible malheur allait se produire. L'air était excessivement lourd et les nuages noirs projetaient de sinistres ombres menaçantes au-dessus des champs et des eaux de la baie. Toute cette conspiration de la nature semblait semer l'émoi chez les goélands qui plongeaient et déchiraient l'air de leurs cris plaintifs. Tukita aussi était inquiète. Ce jour-là, elle aurait tout fait et donné pour voir Cyrenus. Elle voulait lui dire combien elle l'idolâtrait, combien elle l'aimait et combien elle souffrait de ne plus le voir. Soudain, un éclair d'un blanc bleuâtre déchira le firmament et la foudre tomba sur un arbre tout près d'elle.
Ô grand Manitou, ne t'emporte pas contre moi. Je le veux, je l'aime.
Pour toute réponse, des vents du sud-est se déchaînèrent dans le ciel et une pluie cinglante tomba en torrent. Toute la baie semblait bouleversée. Des vagues aux crêtes écumantes se soulevaient, s'abaissaient et se renversaient comme pour se venger. D'énormes éclairs trouaient le firmament assombri. Et le tonnerre éclatait et tombait avec une férocité croissante.
Je l'aime! Je l'aime! Criait Tukita aux éléments en furie.
Et la tempête s'adoucit un instant, retint son souffle, ce qui lui permit d'entendre une voix qui, de la mer, appelait au secours. Elle prêta l'oreille et elle reconnut la voix en détresse de son amour secret. Cyrenus était pris dans la tempête qui avait chaviré son frêle bateau auquel il se cramponnait. Son amour, plus fort que la prudence, lui dicta de faire l'impossible pour le sauver. Écoutant la voix de son cœur et de son courage, elle se précipita vers la plage, sauta dans son léger canot et se mit à pagayer contre une mer houleuse. On ne saura jamais ce qui se passa dans son cœur lorsqu'elle se mesurait au vent et à la mer enragée. Mais on peut supposer que cet incident, tout triste et lugubre qu'il puisse être, réalisait peut-être son rêve de jeune fille. Les vents emportaient sa voix qui criait des mots d'encouragement en ce moment tragique. mais on ne l'entendit plus jamais, ni on ne la vit plus se promener le long de la mer. Car Toukita, étant arrivée trop tard pour sauver Cyranus, avait cessé elle aussi de vivre. Si elle ne pouvait l'avoir dans la vie, elle l'aurait dans la mort. Le soleil brilla le lendemain matin, comme pour auréoler la tragédie de ces deux êtres qui gisaient entrelacés sur le sable humide et fin de Moréophis. La nature semblait retenir son souffle par respect pour ces deux âmes. La mer elle-même se repentant maintenant de son infamie, les avait poussés au rivage et s'était calmée comme pour pleurer la mort de ses deux jeunes enfants. On n'en parle plus depuis plus d'un siècle parce qu'on l'a oublié. Mais le drame de Toukita et Cyranus témoigne de ces tragédies qui ont marqué notre histoire collective et le courage de leur amour naissant, prêt à défier les préjugés qui les menaçaient, mérite que nous leur rendions hommage.
La colonisation européenne de la péninsule acadienne date essentiellement de la période qui a suivi la déportation des Acadiens après 1755. Malgré une présence française irrégulière depuis l'époque de Champlain, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on sera témoin d'une installation permanente dans ce territoire habité depuis des millénaires par les peuples autochtones. Si les rescapés du Grand Dérangement forment la plus grande partie des colons venus s'installer dans le nord-est de la province, les régions précises de Bas-Caraquet et de Moret et de Saint-Simon marqueront l'histoire en accueillant des colons français, souvent venus ici pour pratiquer la pêche, et qui y sont restés en mariant des femmes du pays, des Mi'kmaq. C'est le cas de Gabriel Giraud, que l'on s'est installé au ruisseau Isabelle à Bas-Caraquet. Giraud arrive à Caraquet en 1731. Il mariera une veuve autochtone dont les demi-sœurs Angélique Giraud et Françoise Rousseau marieront à leur tour des Français tels François Gionnet, Gabriel Albert, Joseph Le Boutillier et Pierre Gagnier. Ces familles, à qui s'ajoutent d'autres venus de la Gaspésie, métissés également, formeront une partie importante de la population du bas de Caraquet, de Moret, de Saint-Simon et du Grand Chipagan. Longtemps perçu comme une honte faisant l'objet de divisions, ce métissage est de plus en plus reconnu avec fierté par ceux qui s'en réclament. Si avant la déportation, les relations entre Acadiens et Mi'kmaq sont perçues comme étant exemplaires, ce ne fut pas le cas avec la réinstallation dans la péninsule, les Autochtones étant forcés de prendre parti du côté des Anglais. Les relations entre Autochtones et Blancs furent désormais trop souvent entachées de racisme et de préjugés.
George Paul, passeur culturel et aîné de la communauté Métipénacyac à Red Bank au Nouveau-Brunswick, nous fait une mise en contexte géographique et historique des Premières Nations dans l'Est du Canada et nous trace un portrait des relations entre les Blancs et les Premières Nations d'hier à aujourd'hui.
The Mi'kmaq people lived in the greater part of the Atlantic region here stretching.
Le peuple Mi'kmaq vivait dans la plus grande partie de la région atlantique ici, qui s'étend de Terre-Neuve à l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, une partie du Québec, et parce qu'ils allaient jusqu'à Maria, Québec et l'Istouche. Ils occupaient donc une grande partie de ces terres, qui s'étendaient même au-delà de la frontière, dans le Maine, le nord du Maine, jusqu'au Massachusetts. La langue que nous parlions était donc connue sous le nom de Wabanakis. Les Wawanakis se composaient de 5 tribus. Ce sont les Mi'kmaq, les Malécites, les Penobscot, les Passamaquoddy et les Abenaki. Ici, nous nous appelons les Wabanaki, pour une raison. Nous sommes les premiers à voir la lumière qui passe à l'horizon. Nous sommes à l'extrême est, sur cette terre de l'île de la Tortue. Donc, quand le soleil se lève, c'est Witchquabinia. Wabinia, ça veut dire « ça devient de la lumière ». Le jour devient lumière. Donc, tous les gens qui vivent le long de la côte, dans la partie nord-est jusqu'en bas, nous formons le peuple de la première lumière de l'aube. Donc, pour expliquer cela, un seul mot est Wabanagi-Gewa, ou Wabanagi, qui désigne tous les gens qui vivent dans cette région. Nous sommes des Wabanagi, les gens qui vivent où l'on aperçoit la première lumière, les gens de la première lumière de l'aube. Nous, les Wabanaki, avions formé notre propre confédération pour protéger nos propres familles parce que nous étions pris entre deux feux. Et nous devions, vous savez, non pas choisir un camp, mais nous affirmer en déclarant « Hey, vous savez, vous allez avoir une guerre sur ce territoire. Vous devez considérer le fait que nous étions ici en premier et que nous possédons une grande partie de ce territoire et que nous en savons plus sur ce territoire que les nouveaux arrivants qui sont ici et ceux qui viennent s'y installer. Nous devons donc conclure un accord pour ne pas nous tirer dessus ou tirer sur nos familles et ce genre de choses, parce que la guerre est dévastatrice, bien sûr. Vous savez, les gens meurent en masse à cause des armes qu'ils utilisent, des armes de destruction. C'est ainsi que sont nés ces traités. Les proclamations, les traités, et ce qui est devenu le traité d'amitié de 1752 entre les Mi'kmaq et la Grande-Bretagne. Nous n'avons pas donné nos terres, vous savez. Nous avons conclu un accord pour vivre côte à côte dans une relation, mais nous n'avons pas donné nos terres. Il n'est dit nulle part, dans les accords écrits, les traités, que nous allons céder nos terres. Rien. C'est une relation entre deux nations. C'est-à-dire que nous vivons ensemble, côte à côte, et nous partageons. Mais malheureusement, notre peuple a été laissé à l'écart d'une grande partie du partage qui aurait dû avoir lieu depuis le commencement, depuis le début de tout ça. Donc, les institutions éducatives ont été mises en place. Malheureusement, dans plusieurs cas, les peuples autochtones n'étaient pas à table pour prendre des décisions sur la façon dont l'éducation serait dispensée aux communautés autochtones à travers le Canada. Au lieu de cela, on vous envoyait quelque chose qui disait « Voici comment vous allez faire ». Il n'y a pas eu de consultation. Vous savez, le gouvernement décide des règles et dit « Vous allez le faire, que vous le vouliez ou non ». À l'origine, les traités avaient été signés de bonne foi. Nous allions vivre côte à côte. Il y aurait une certaine transparence, une relation nous permettant de grandir ensemble. Mais nous avons été tenus à l'écart. Si vous visitez la région de l'Atlantique, il y a un fort dans chaque province. Peut-être 2 ou 3 forts à certains endroits. Et à quoi servent ces forts? À les protéger d'eux-mêmes? Non. C'est parce qu'ils avaient peur d'un soulèvement des Autochtones qui étaient encore considérés comme des ennemis. Je ne sais pas pourquoi nous serions des ennemis, puisque nous avons accepté tout le monde en les accueillant, en les aidant à surmonter les maladies et des choses comme ça, en leur montrant les remèdes naturels, les poissons que nous mangions et tout ça, et comment nous parvenions à survivre. Nous n'avions pas ce genre de concept. Construire des clôtures, se battre pour le territoire. Nous avions des accords, mais les accords étaient des ceintures de wampum. Et ils étaient conclus avec les Mohawks et les Iroquois, les 6 nations. Ils reconnaissaient ces nations, les Wabanaki, les nations Wabanaki. Et chaque tribu avait son propre groupe, vous savez, qui maintenait un certain territoire. Donc nous respections ces territoires. Avant de pénétrer dans ce territoire, vous deviez avoir une carte d'identité et la présenter. Cette carte d'identité, c'était des symboles que vous portiez sur vos totems. On savait donc exactement d'où vous veniez. Vous présentiez votre cas. Pourquoi êtes-vous ici? Vous deviez aller directement voir le chef et lui dire « Voilà pourquoi je suis ici. Je vais être ici une semaine ou je vais être ici quelques jours. » Vous deviez présenter votre cas au chef parce qu'il voulait savoir, au cas où vous seriez malade, au cas où vous seriez un criminel ou quelque chose comme ça. On savait tout sur vous. Même à cette époque, notre peuple voyait à la circulation des gens et des choses comme ça, à travers notre propre processus. C'était très complexe d'une certaine manière, mais ce n'est pas reconnu par le gouvernement qui, pourtant, fait pareil. En fait, nous avons contribué à beaucoup de choses, à la connaissance en matière de gouvernance, la façon dont les gouvernements sont gérés dans ce pays aujourd'hui. La Constitution des États-Unis, dit-on, a beaucoup emprunté à la façon dont les six nations, le peuple des six nations, fonctionnent. C'était dans la même région et le même territoire. Ils ont juste regardé comment nous délibérions quand nous parlions de loi et de la santé de la terre ou du peuple. Vous savez, c'est ça, gouverner. Donc ils ont adopté en grande partie cette philosophie dans la Constitution. La liberté d'expression et tout ça, la liberté de pouvoir porter des armes pour se protéger. À l'époque, c'est comme ça qu'on voyageait. Il fallait avoir un couteau, une arme sur soi ou quelque chose comme ça, au cas où on serait attaqué par un ours ou un cougar ou quelque chose comme ça. Il fallait se défendre.
Donc dans l'histoire, le fait que Serranus se soit noyé et que Toukita ait tenté de le sauver, on se retrouve avec l'espoir qu'il y aurait eu une histoire d'amour entre ces deux personnes.
It was shaping up to be a really beautiful, like that flower that is going to unfold, right?
Ça commençait à prendre la forme de quelque chose de très beau, comme cette fleur prête à s'épanouir, pas vrai? Ça va arriver. Mais le sort, semble-t-il, ne leur a pas été favorable. Il me semble, dans cette histoire, qu'ils étaient tous deux innocents. Et c'est l'innocence qui a déclenché tout ça. Deux enfants qui jouent ensemble et ils connaissent leur premier amour. C'est vraiment très, très difficile à briser un premier amour quand ça survient à un si jeune âge. Ça aurait pu être, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent très longtemps. Et vous savez, ça aurait été la belle histoire avec une belle fin. Mais dans cette histoire-là, il y a quelque chose dans leur passé, comme une sorte de barrage routier sur leur chemin, alors qu'ils essaient d'être ensemble. Pour revenir à votre question sur cette histoire, quand je lisais, j'étais vraiment triste pour les deux, parce que vers la fin, quand il était dans l'océan et que la tempête arrivait, elle voulait être avec lui, et elle criait, et la tempête devenait encore plus violente, comme si la tempête lui répondait qu'une telle chose ne devait jamais se réaliser. Alors, elle va se lancer, avec détermination, coûte que coûte. Elle va se lancer, nager et finir happée par la tempête. Et les deux vont être trouvés sur le rivage, après la tempête, leur vie prise par la tempête. Mais au moins, pour un instant, ils étaient ensemble, à ce moment-là, dans cet instant de passion.
But at least for a moment they were together in that time, you know, in that passionate moment, you know. Sometimes there's a relationship that happens, you know.
Parfois, il y a une relation entre une femme Mi'kmaq et un homme français. Cette relation se construit jusqu'à ce qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants. Leurs enfants sont métis, mais ils doivent eux aussi passer par une sorte d'épreuve, surtout lorsqu'ils vont à l'école et se mêlent aux autres enfants qui ne sont pas métis. Ils diront, « Eh bien, je suis en partie Mi'kmaq. » Mais pour les autres, si vous êtes en partie Mi'kmaq, vous êtes Mi'kmaq. Point final. Vous pouvez essayer de dire que vous êtes en partie blanc, mais bon, ça ne marche pas vraiment. Donc il y a une sorte d'isolement, une sorte de mentalité à l'œuvre, si bien qu'on en vient à parler de préjugés. Et quand ça devient extrême, on parle de racisme, n'est-ce pas? Je veux dire, vous savez, vous n'êtes pas un Acadien à part entière, vous n'êtes pas un Anglais à part entière. On ne vous accepte pas dans cette école de droit. Dans cette école de droit, vous devez être issu d'une société blanche. On n'accepte pas les autochtones. Cette manière d'exclure s'est mise en place.
We're not accepting you in this law school. This law school only has, you know, you have to be from a white society. We don't take native people in that. You know, they started setting up this kind of a way of blocking out. Anyway, the relationships were now establishing that.
Quoi qu'il en soit, le rapport que nous établissons maintenant, c'est que nous sommes intellectuels et nous sommes aussi des gens qui peuvent être considérés comme des êtres intelligents.
That we can be intelligent human beings. So we're now accepting. We're no longer monkeys, or we're no longer savages, or we're being accepted as.
Donc, nous sommes maintenant acceptés. Nous ne sommes plus des singes. Nous ne sommes plus des sauvages. Nous sommes acceptés comme, vous savez, on est assis à table maintenant. Nous pouvons avoir un dîner et un souper ensemble. Nous pouvons parler. C'était des temps difficiles, vous savez, dans les premiers jours, les premières rencontres. Mais ça a créé une relation, c'est sûr. Et aujourd'hui, nous commençons à aller vers ce meilleur endroit. Nous commençons à nous comprendre beaucoup mieux. Et je pense que ça doit continuer. Il faut que ça se poursuive. Quand l'aîné m'enseignait ces choses, il disait, « Tu dois t'engager à vie. » Alors j'ai dit, « Je le ferai. » Parce que ça va vous mettre au défi. Et beaucoup de gens sont mis au défi. Et certains n'y arrivent pas. Ils abandonnent à cause des critiques et des pressions qu'ils subissent et ils retournent simplement à l'ancien mode de vie, deviennent probablement plus dociles que jamais. Mais si vous restez, que vous avez foi et que vous croyez, vous persévérez et ravivez les cérémonies, vous persévérez et c'est ce qui doit être fait.
Histoire de la Côte est un balado du Théâtre populaire d'Acadie en collaboration avec la ville de Caraquet. Les textes sont tirés du recueil de l'auteur J. Antonin Friolet, Caraquet, village au soleil, publié à compte d'auteur en 1978 et réédité, toujours à compte d'auteur, en 1980 et en 1994 sous le titre Voici Caraquet. Nous désirons remercier Mme Marie-Gabrielle Durand-Foxenay, épouse de feu J. Antonin Friolet, de nous avoir accordé le droit d'utiliser ses récits. Nous remercions également Mme Aline Landry, agente de patrimoine à la ville de Caraquet, pour sa précieuse collaboration. Nous voulons souligner que les terres mentionnées dans ces histoires et sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui font partie du territoire ancestral non cédé de la nation Mi'kmaq. Tukita et Siranus est une adaptation du texte « Les fleurs sauvages » de M. J. Antonin Friolet. Lecteur, Raphaël Butler. Historien, Bernard Thériault. Invité, George Paul, passeur culturel et aîné de la communauté Métipénakiak à Red Bank, au Nouveau-Brunswick. Conseillère sur le contenu, Monique Légère. Transcription des textes pour la traduction, Colette Galland-McLaughlin. Traduction et voix de George Paul en français, Jean-Philippe Reich. Prise de son pour la voix de Jean-Philippe Reich, Jean-François Mallet. Prise de son pour les voix de Ghislain Basque et de Alain Roy, Dennis Morton. Mise en ligne et conseillère à la réalisation, Noémie Lavoie. Enregistrement, prise de son, musique, environnement sonore et montage, Jean-François Mallet. Réalisation, Alain Roy et Ghislain Basque.